Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver depuis les studios de Radio Grand Ciel à Dreux. Pierre Écart enregistre cette émission L'écho de ma commune. Et aujourd'hui, j'ai encore le très grand plaisir de recevoir à Dreux le maire de Luret, mais qui est pour cette émission vice-président de l'agglomération.
Bonjour Marie-France.
Bonjour Alain. Tout va bien ?
Tout va bien.
Même à l'agglomération, tout va bien ?
Oui, tout ne va pas forcément comme l'on voudrait, mais dans l'ensemble, ça, notre agglomération, notre communauté d'agglomération, modèle 2014, forte de 78 communes au lieu de 19, forte de 114 000 habitants, n'est pas une entité facile à gérer tous les jours. Nous avons la chance d'avoir un président très, très consensuel, un président qui aussi aime ce qu'il fait, notamment la gestion de notre agglomération. Et je pense que tous ensemble, nous faisons un travail intéressant.
Gestion qui ne doit pas être quelque chose de très facile, parce que plus on a de participants dans une société en regroupant 78 communes, donc 78 maires et 78 volontés différentes.
Oui, exactement. Tu as raison d'insister sur les volontés différentes. On pourrait même aller encore beaucoup plus loin avec des volontés différentes qui peuvent divergentes, oui, en ce qui concerne l'utilité d'avoir créé une grande agglomération. Alors, me diras-tu, pourquoi ces maires, pourquoi ces conseils municipaux ont-ils rejoint l'agglomération?
C'est une volonté de chaque commune de rejoindre l'agglomération, on les incite
la première agglomération, celle de 2003 que nous avons constituée, située à 19 communes, était une volonté communale, municipale. Chaque commune s'était déterminée pour rejoindre. D'ailleurs, ça ne s'était pas fait en une seule étape. Nous avions constitué une agglomération à une douzaine, 13, et ensuite 5 ou 6 communes nous ont rejoints. Nous avons fini à 19.
Ça rappelle un petit peu l'Europe, ce que tu es en train de nous dire.
Oui,
là.
Oui, c'était ça. Mais en tout cas, il y avait une détermination, il y avait une volonté de se regrouper qui était manifeste. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, c'était clair. Certes, après avoir pris un certain nombre d'informations avant de rejoindre le groupe. Là, la communauté d'agglomération s'est faite par la fusion de plusieurs communautés de communes. Plusieurs communautés de communes,
donc,
je m'explique.
Donc ces communes s'étaient déjà regroupées entre elles.
Tout à fait. Alors il y avait la communauté d'agglomération de Dreux, celle à l'origine de 19 communes, et puis il y avait un certain nombre de communautés de communes que l'on peut
celle
citer.
Celle de Chérisy avait combien de communes?
Celle de Chérisy devait avoir 7 ou 8 communes. C'était la communauté des villages du Drouet, il y avait la communauté de Brezolles, du Val d'Avre et Vègre, de la Coval, celle qui se situe plutôt sur Saint-Rémy, Nonancourt, etc. En tout cas, ce sont des communautés qui ont, communautés de communes ou d'agglomérations, qui ont fusionné. Et à l'intérieur de ces communautés de communes, certaines communes n'étaient pas du tout enclines à venir nous rejoindre. Mais elles se sont trouvées aspirées, entraînées, si je puis dire, par le vote, par la volonté de la communauté. La communauté ayant choisi d'adhérer, de fusionner, une ou deux communes à l'intérieur qui n'avaient pas ce dessein-là, se sont retrouvées, bien évidemment, à venir nous rejoindre.
Elles n'ont pas eu le choix à ce moment-là de quitter leur petite agglomération.
Non, parce que il y a aussi des règles de territoire. On ne peut pas aller se regrouper n'importe où, n'importe comment. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Il faut qu'il y ait des continuités territoriales qui puissent se faire. Donc cela limite un petit peu les possibilités.
Continuité territoriale, c'est amusant parce que Nonancourt est dans l'Eure-et-Loire en fait.
Dès l'instant, oui, mais Nonancourt était dans la communauté de communes du Val d'Avre.
Je comprends.
Et donc c'est pour ça. Nous avons quelques communes qui sont dans le département de l'Eure. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on peut remodeler les territoires, les espaces territoriaux de nos communautés, et on a un certain nombre de communes du département d'à côté. Je pense au département de l'Eure, comme les communes comme Saint Saint-Georges Motel qui ont demandé à rejoindre notre agglomération. C'est pas aberrant de pouvoir regrouper des communes qui sont sur deux départements différents. Nous sommes beaucoup, Saint-Georges Motel est beaucoup plus proche.
On est très
tu
proche.
Connais bien, tu bien connais sûr. Bien le territoire de Drouais, la région drouaise. Saint-Georges Motel est beaucoup plus proche de Dreux qu'une peut-être proche de d'Évreux, de ou d'autres communes de l'Eure, de Saint-André de l'Eure, etc.
C'est un petit peu comme les ondes de Radio Grand Ciel qui débordent un peu le territoire du département de Eure-et-Loir, voilà.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les franges. C'est ce qu'on appelle les franges, et à partir de là, il n'est pas toujours facile, et surtout le fait de créer des territoires nouveaux, de regrouper, on ne peut plus reprendre forcément les anciens cloisonnements issus de la Révolution française. Les départements sont issus, les territoires de la Révolution française. L'intercommunalité est en train de bousculer les lignes un petit peu.
J'imagine que ça a été aussi très très difficile pour ces nouvelles régions. Parce qu'en fait, c'est difficile de se dire, à ce moment-là, voilà, ça va être là, la région, la frontière va être ici, et un village qui est à côté se trouve, comme tu dis, aspiré dans la grande région, alors qu'il préférait peut-être être ailleurs.
Voilà, et c'est le problème des frontières. Hein. Dès l'instant où, à un moment donné, on a une ligne qui fait la frontière, on est juste de côté, au bord de la ligne, mais on n'est pas du même côté.
Alors, j'ai écouté récemment, c'était une interview qui avait lieu sur, c'était dans Télématin, les quatre vérités, où Jean Lassalle, qui se présente à la présidentielle, avec un accent rocailleux des Pyrénées, très sympathique d'ailleurs, disait qu'il était farouchement contre l'intercommunalité. Il veut revenir à la commune initiale et aux anciennes régions, en outre. Est-ce que tu peux comprendre, Alain, que, certainement d'ailleurs, que certains maires des petites communes soient très réticents lorsqu'il s'agit de se fondre dans de très grosses agglomérations, parce que quelques-uns, enfin la plupart, sont de bons gestionnaires de leur budget, et ils ont peur de ne plus en être les maîtres absolus de ce budget. Comment ça se passe ?
Oui, alors, moi je comprends...
Est-ce que les budgets sont mutualisés ?
Voilà, pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, chaque commune est encore maîtresse de lever l'impôt, de lever les taxes foncières ou taxes d'habitation. Je peux comprendre, pour revenir à ta question, je peux comprendre qu'un certain nombre de collègues soient attachés. Nous le sommes tous, toutes et tous, attachés à nos communes, à nos villages. Mais aujourd'hui,
mais ça ne risque pas de disparaître.
Je pense que la commune, qui est la cellule de base de notre organisation territoriale, ne disparaîtra pas tout de suite. À mon avis, je pense qu'elle ne disparaîtra jamais. On peut pas dire jamais. Sauf que on s'aperçoit que aujourd'hui, un certain nombre de communes, surtout celles qui sont vraiment petites par leur taille, ne peuvent plus équilibrer leur budget. Indépendamment de l'actualité récente, du fait que nous devons participer à l'effort de redressement des comptes publics, etc.
Comme tous les maires, vous subissez les baisses de dotation de l'État.
Tout à fait. Alors, on pourra y revenir. Moi, j'ai aussi une position qui est un peu moins tranchée que la critique systématique. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les maires dans les communes, si on prend le territoire de notre agglomération, ont encore un certain nombre de prérogatives, bien évidemment. Ils gèrent leur budget, ils gèrent leur voirie, ils marient. Enfin bon, ils sont les représentants de l'État en ce qui concerne l'État civil, etc. Pourquoi l'intercommunalité a été créée ? Pour tenter, essayer de faire, je pense qu'on y arrive, de faire des économies. Aujourd'hui, comment la commune de Luret pourrait elle-même gérer la collecte de ses ordures ménagères ? Elle le ferait, mais pas au même prix. Même si on considère qu'aujourd'hui, la collecte des ordures ménagères, c'est quelque chose qui représente une somme qui n'est pas négligeable dans le budget familial et à travers notre feuille d'imposition foncière. Mais on ne pourrait pas gérer notre assainissement. Il faut mutualiser un certain nombre de choses. L'intercommunalité a pris à récupérer un certain nombre de compétences, mais pas toutes les compétences. Et je dirais même que pour certaines communes, c'est leur espoir, pas de rentrer uniquement dans l'intercommunalité, mais demain de fusionner, qui est une étape encore plus importante que l'intercommunalité. Quand on rentre dans une intercommunalité, on ne perd pas son nom. On existe toujours en tant qu'entité, en tant que cellule de base. Mais aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de communes fusionner. C'est-à-dire, elles fusionnent avec les communes aux alentours, elles portent bien souvent un nom différent. Là, elles ont disparu.
Boutigny-Prouet.
Boutigny-Prouet, c'était un regroupement de communes. Elles existent. Mais si on prend l'exemple de Veuve et d'un certain nombre de villages, pour reparler de notre territoire qu'on connaît mieux, en Eure-et-Loire, Veuve s'est regroupée avec un certain nombre de villages autour. On parle aujourd'hui des villages vauvéens. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a même perdu le nom propre de sa commune. Sauf qu'aujourd'hui, un certain nombre de collègues ne peuvent plus équilibrer leur budget. Et pas uniquement, ça n'a pas arrangé les choses, j'en conviens, mais pas uniquement le fait que nous ayons des dotations moindres. Même avant que nous n'ayons des dotations moindres, je ne veux pas citer de commune, il y en a une qui est très proche de chez nous, Marie-France. Le maire me disait, quand j'ai payé un petit bout d'employé communal, c'est pas péjoratif, un petit bout d'employé communal, ça veut dire tout simplement quelques heures d'un employé communal dans la semaine. Quand j'ai payé mon éclairage public, quand j'ai payé le chauffage de la mairie, quand j'ai payé un petit peu d'école dans le cadre du regroupement pédagogique, c'est fini, je n'ai plus de budget. Vous me parlez de faire des trottoirs, je ne peux pas faire des trottoirs, de réparer la route, je veux bien réparer la route, le département va m'aider, va me donner 30%, mais les 70% qui me restent à financer, je ne peux plus. Donc ce que je veux dire, c'est que le fait de se regrouper sans même aller jusqu'à la fusion permet d'assumer un certain nombre de compétences qui, si elles étaient assumées au niveau communal, le seraient, mais à un autre prix que celui qui est pratiqué au sein de l'intercommunalité.
Oui, parce qu'évidemment, plus vous êtes nombreux dans un regroupement, moins vous payez les choses chères.
Mais disons que le fait de mutualiser, ça permet de diminuer le coût. Il est bien clair que si on collecte les ordures ménagères sur le territoire de 78 communes, les charges ne sont pas les mêmes que si on additionnait les charges de collecte dans chacune des 78 communes.
On vous fait vous demander des prix dans ce cas-là.
D'une part. Et donc, moi je pense que, et même j'irai plus loin, l'intercommunalité aujourd'hui telle que la nôtre, avec deux grandes villes, Dreux-Vernouillet, mais surtout pour le reste avec des communes rurales. Je mets à part les quelques centres-bourgs qui sont Nonancourt, Saint-Rémy, Annette, etc., qui sont des communes un petit peu plus étoffées. Mais dans les 78 communes, la plupart sont des communes qui ont moins de 1000 habitants, là, largement. Je dis que ce sont ces communes-là qui sont les plus bénéficiaires de l'intercommunalité.
Oui, parce que ce sont les plus fragiles, bien sûr.
Et puis parce qu'elles n'auraient jamais pu faire hier ce qu'on leur permet, ce que les finances de l'intercommunalité leur permettent de réaliser aujourd'hui.
Donc en fait, les communes qui sont riches payent aussi pour celles qui ne peuvent pas payer.
Ça, c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. À l'intérieur d'une intercommunalité, on ne peut pas dire que les communes riches payent pour celles qui sont moins riches. Simplement que le fait de mutualiser les sommes permet de les répartir d'une manière un petit peu plus homogène. Je voudrais juste revenir sur, mon appréciation sur les baisses de dotation. De l'État. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir et puis on en est tous un peu là. On voudrait bien le beurre, on voudrait bien l'argent du beurre.
Et le fromage de la feuille de durée.
Si on pouvait embrasser la fermière, ce serait merveilleux. Ce que je veux dire, c'est qu'il est clair qu'au niveau national, notre pays est endetté d'une manière très importante.
2200 milliards.
Bon, si on veut commencer, je ne dis pas que, si on veut commencer à essayer d'éteindre la dette, pourquoi éteindre la dette, ou tout au moins diminuer la dette, parce qu'on est là dans un instant T, pour une durée donnée, mais il y aura d'autres générations derrière nous.
Pour ne pas leur faire le cadeau
empoisonné. Faisons en sorte de ne pas aggraver la situation, commençons à essayer de l'améliorer. Donc ce que je veux dire, le fait que les collectivités ont eu à pâtir d'une baisse de dotation de l'État, ça nous a aussi, à contrario, Marie-France, obligés à regarder de plus près s'il n'y avait pas des endroits où on pouvait faire des économies. Parce qu'au fond, tant que
ça
l'argent...
Ça doit être aussi le but recherché, j'imagine.
Tant que l'argent est relativement facile, je ne dis pas qu'on gaspille, mais je dis qu'on est moins enclin, on est moins déterminé à dire là, il faut peut-être vraiment serrer, faire vraiment des efforts, faire les efforts nécessaires.
Il faut être pragmatique.
Voilà, donc il y a eu cela. Je pense qu'on est vraiment en train de faire des économies importantes et ce n'est pas pour cela que ça fonctionne mieux, que le service public n'est pas plus mal mis en application. Et puis, ça a permis aussi l'État, d'un autre côté, je parle pour ma commune, je ne vais pas rentrer dans le jargon technique financier, mais sur certaines lignes budgétaires de recettes, la commune de Luré a été moins dotée. Mais sur d'autres lignes de recettes de l'État, nous avons touché beaucoup plus.
Notamment, et qui décide
notamment,
de ça ?
Notamment, Marie-France, notamment... Le fait d'être en intercommunalité. Tout à l'heure, tu me disais, il y a des communes riches qui payent pour les communes pauvres.
C'était une question.
On va remonter d'un cran. Je dis qu'il y a des intercommunalités riches. On va prendre un exemple. L'intercommunalité, la communauté d'agglomération de la région parisienne, avec des départements comme le département des Hauts-de-Seine, etc., sont des intercommunalités riches. Ces intercommunalités-là sont obligés de, dans un cadre d'une péréquation, de payer pour des intercommunalités qui sont plus en difficulté. Je vais prendre des intercommunalités de la Lozère, je vais prendre des intercommunalités, l'intercommunalité drouaise. Nous sommes considérés comme n'étant pas une intercommunalité riche. À un moment donné, il y a une frontière. Il y a riche, pauvre. Alors parfois, on est proche de la ligne, on est pauvre alors qu'on pourrait presque être riche ou inversement. Aujourd'hui, l'intercommunalité drouaise, la communauté d'agglomération du Pays de Dreux, reçoit une manne financière des intercommunalités beaucoup plus riches. Et cette manne financière est répartie au niveau des communes, à l'intérieur. Ce qui veut dire que si on prend l'exemple de la commune de Luré, qui d'un côté l'État, l'intercommunalité c'est l'État qui répartit, le fait que nous ayons des dotations moindres de l'État, d'un côté, mais qui par le biais, parce que nous sommes en intercommunalité, nous bénéficions de subsides assez intéressants, c'est le principe des vases communicants, l'un vient compenser l'autre. Aujourd'hui, si on parle de ma commune, aujourd'hui ce que nous avons perdu d'un côté, sur certaines lignes de recettes, nous l'avons récupéré d'une autre manière.
C'est la péréquation.
Exactement.
Il y a quand même en France encore maintenant 36 628 maires. Pas mal.
Oui, c'est beaucoup. Et surtout, c'est la plupart des communes, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 75% de communes qui n'ont pas 500 habitants, qui ont moins de 1000 habitants. Aujourd'hui, avec le recul, faut-il être maire d'une commune de 150, 200 habitants ? Il y a une commune en Eure-et-Loir, il y a 70 habitants. Cette commune, je ne fais pas d'ingérence, hein, c'est pas les difficultés pour équilibrer le budget, pour faire un budget, pour faire de l'investissement, pour fonctionner. Parlons même pas d'investir, comme dans un budget familial. Ne parlons même pas d'acheter une voiture.
Là, le bureau du maire, c'est chez lui, quoi.
Probablement, je sais pas. Je connais pas la manière dont fonctionne la commune de Revercourt. Mais je veux dire que ça doit pas être facile tous les jours. S'il faut être maire de telle commune, c'est-à-dire de n'avoir aucune capacité d'investir, au fond, quel est l'intérêt d'être maire aujourd'hui ? Si ce n'est d'apporter un peu plus de bonheur à ses concitoyens,
pouvoir réaliser ses propres projets pour sa commune.
Les projets, on va dire, d'une équipe municipale, voir évoluer son territoire, de l'améliorer, d'enrichir le patrimoine, de faire en sorte que les habitants vivent le mieux possible. Mais si tout ça ne peut pas être assuré, si c'est uniquement avoir l'écharpe et faire un mariage par an, et ça n'a aucun intérêt. Je veux dire qu'en termes intellectuels, ça n'apporte pas grand-chose.
C'est sûr.
Thank you.
c'est peut-être indiscret, mais est-ce que tu as donné un parrainage à un candidat pour la présidentielle ?
Non, j'ai pas donné de parrainage à un candidat, aucun candidat. Je ne l'avais pas fait en 2012. Je ne l'avais pas fait en 2012, mais peut-être parce que pas spécialement intéressé. Là, c'est volontaire. Là, c'est volontaire. Je n'ai pas voulu apporter de parrainage parce que on est dans une ambiance d'élection présidentielle qui, moi, me désole, vraiment. Je trouve qu'un grand pays comme le nôtre, je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne veux pas parler des affaires, de tout ce qui... Mais je dis que l'ambiance globale, quelles que soient les raisons qui créent cette ambiance, l'ambiance globale est vraiment désagréable. Je veux dire qu'un pays comme le nôtre, qui est néanmoins un grand pays, le pays des droits de l'homme, le pays de, où on a écrit des textes très importants qui aujourd'hui font leur chemin dans le monde entier. Je veux dire que de voir où on en est arrivé au moment où l'élection présidentielle est quand même une élection importante, où une femme ou un homme va rencontrer le peuple pour présenter son projet, pour définir pour 5 ans quelles seront les orientations de notre pays en interne, mais aussi à travers le monde, de voir dans quelle ambiance tout cela se déroule. J'ai voté à la primaire de la gauche, bien évidemment. Je n'ai pas, le candidat pour lequel j'ai voté n'est pas sorti de la primaire. Ce qui veut dire que aujourd'hui, je commence à dégager un petit peu quel sera mon soutien, parce que je vais par contre soutenir un candidat. Quel sera mon soutien ? J'attends encore un petit peu. Je vois un débat qui a eu lieu, le débat général, lundi dernier. Je ne l'ai pas suivi entièrement. J'en ai regardé une bonne partie. Je l'ai trouvé d'ailleurs pas forcément inintéressant, ce débat. Il n'était pas forcément inintéressant. Les uns comme les autres, et plutôt les autres par rapport à l'un, avaient défini que on essaierait de pas trop polluer par les affaires qu'il y a aujourd'hui. Je souhaite que le débat s'enrichisse encore. Au moins, les gens pourront voter à programme comparé à programme. Mais je vais me prononcer pour quelqu'un. Je vais soutenir quelqu'un. J'attends encore un petit peu pour le faire savoir.
En fait, de programme, est-ce que tu t'es penché sur le fait que ces 36 628 maires ont donc rencontré récemment quelques candidats à la présidence ? Et est-ce que, à ton avis, un, deux ou trois proposent des choses plus intéressantes en ce qui concerne justement les petites communautés de notre pays ? Et est-ce que ça t'intéresse ?
Bien évidemment, et au-delà de l'élu, le citoyen. Je pense que la politique est quelque chose de, devrait être quelque chose de noble. La politique, c'est quelque chose qui est incontournable de notre paysage. Au fond, la définition de la politique, c'est quand même la gestion de la cité, que l'on peut étendre à la gestion d'un pays. Mais dès l'instant où cette politique devient politicienne, dès l'instant où elle est polluée par tout un tas d'autres choses, je veux dire que ça ne grandit pas du tout notre pays.
Peut-être même aller jusqu'à la Grèce antique pour faire démarrer la politique.
Par exemple. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je vais pas te surprendre, les programmes. Je crois qu'il faut être objectif et il faut jamais considérer que le paradis est d'un côté et l'enfer de l'autre. Au même titre qu'à titre intellectuel, faut jamais lire qu'un seul journal. Il faut lire tout un panel de journaux.
C'est d'ailleurs plus facile maintenant, si on peut dire, avec Internet.
Oui, et puis c'est d'autant plus important aujourd'hui à l'époque où nous vivons, dans un siècle, un moment d'image, et où c'est l'image qui tente parfois de nous façonner sur notre comportement, nos choix politiques. Non, lisons, faisons nous-mêmes l'interprétation, faisons-nous une idée de ce que nous sommes réellement et de vers quoi nous souhaitons tendre. Et à partir de là, ce n'est qu'en confrontant des lectures. Mais pour être clair...
Je suis toujours très surprise, pardon Alain, je te coupe la parole, de voir une émission, par exemple, le journal télévisé, où on t'assène des nouvelles, J continue. Et pendant qu'on te les raconte, ces nouvelles, tu vois sur l'écran des images qui la plupart du temps n'ont rien à voir avec le sujet, qui sont complètement à côté de la plaque, mais on se dit, mais la force de l'image, c'est épouvantable.
Voilà. On est dans la communication de manière plus globale à outrance, et au sein de la communication, l'image a pris une importance très dévastatrice.
Démesurée.
Quand je dis dévastatrice par rapport à la réflexion, à sa propre réflexion. Je vais pas te surprendre si je te dis que quand on regarde, quand on écoute les programmes, il y a aucun programme qui satisfait. Moi, il y a des programmes, il y a le programme d'un tel, ne serait pas forcément aberrant, mais il a un volet qui laisse un peu sceptique. Pour un autre, c'est la même chose. Par contre, il est clair que je ne me reconnais dans aucun des programmes qui sont aux extrêmes. Car je pense que ces programmes ne sont pas, par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons, ceux qui pourront apporter, c'est quand même la raison d'être de la politique et des femmes et des hommes qui font la politique, de pouvoir améliorer tout ce qui nous entoure, la vie de nos concitoyens. C'est ça le but. Et je pense que les programmes des deux extrêmes, ne vont pas dans ce sens-là. Ils ne vont pas dans ce sens-là, que ce soit l'un qui est utopique ou les uns utopiques parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre beau pays qui est la France, quand on parle travail, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fort désagréable.
C'est un gros mot.
Non, c'est pas un gros mot. Mais de l'autre côté, lorsque on propose que l'on sorte de l'Europe, moi je suis européen convaincu, même si l'Europe n'est pas forcément au mieux de sa forme. Mais on parlait de l'intercommunalité. On s'en sortira par l'intercommunalité pour continuer à gérer et les communes continueront à exister. On s'en sortira par le biais de l'Europe et les pays continueront, les nations continueront à exister.
C'est le mot de la fin. Un hommage à l'Europe.
Oui, un hommage à l'Europe parce que je suis persuadé que au moment où nous débattons, où nous échangeons, l'Europe n'est pas au mieux de sa forme. Mais je reste persuadé que c'est par le fait que nous soyons regroupés que nous arriverons à surmonter les difficultés, pas toutes, tout ne sera pas facile, il faudra retrousser les manches, mais qu'on n'a pas d'autre alternative. On ne pourra pas s'en sortir nous-mêmes. On ne peut pas fermer toutes les frontières. Si demain on a décidé que nous vendrons nos camemberts, on vendra nos camemberts, mais si on ne veut pas nous acheter nos camemberts ou nos Airbus, parce que nous, de notre côté, nous n'achetons pas d'autres produits européens, comment on fera avec tous les salariés d'Airbus et avec ceux qui travaillent dans toutes les fromageries de Normandie et de toute la France, puisqu'il y a un fromage dans chaque région de France.
365.
Voilà.
Merci Alain d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je suis sûre que ça aura passionné nos auditeurs. Merci à Pierre Écart qui enregistrera et réalisera cette émission. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir Alain.
Au revoir et à bientôt.